ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Ouais, écoutez, Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et tutti quanti, c'est tutti quanti. Pour écouter des adagio, des allegro, des moderato et tutti quanti, c'est tutti quanti. Votre magazine consacré à la musique classique de radio MDM. Un magazine, comme d'habitude, préparé par Alain Bont avec à la technique à Arnaud. Nous sommes à la lettre L de notre petit dictionnaire de la musique et on va aborder une notion qui paraît un peu savante, mais vous allez voir qu'il ne l'est pas tant que ça. C'est l'idée de leitmotiv. Qu'est-ce que c'est qu'un leitmotiv ? Alors, c'est une expression allemande. En français, on dirait motif conducteur, par exemple. C'est un motif musical qui est associé à une idée extra-musicale et qui donc, par association d'idées, apporte du sens à une pièce musicale. Ça paraît un peu compliqué comme ça. On va en écouter un exemple tout de suite et vous allez voir que ça parle. On va écouter, mais je vous dis pas ce que c'est, et vous allez voir que vous allez tous les auditeurs de Radio MDM vont penser à la même chose en écoutant cette pièce. Vous avez bien sûr reconnu la musique de Star Wars et en particulier la marche impériale, celle où on voit l'affreux Dark Vador qui avance, juste avant qu'il le dise « Je suis ton père ». Donc voilà, on a la musique et on sait que c'est Dark Vador et on sait que c'est pas un personnage très sympathique ni très bienveillant. Bien évidemment, il n'y a pas de mode d'emploi dans Star Wars. On vous a pas dit, avant de voir le film, vous devez mémoriser 40 musiques différentes pour chacun des personnages. Ça se fait un peu au fur et à mesure du film et vous identifier immédiatement ces motifs mélodiques et les idées qui y sont associées. Celui qui a vraiment théorisé ça, c'est au 19e siècle, c'est le compositeur allemand Wagner, et c'est pour ça qu'on utilise un terme allemand, Leitmotiv, pour parler de ça. Wagner utilise énormément ce système dans tous ses opéras. Alors, je vous propose d'explorer un petit peu tranquillement et un petit peu méthodiquement un de ses opéras les plus importants, à mon sens l'un des plus beaux aussi, qui est Tristan et Isolde. Et on va écouter les quelques leitmotifs, donc les quelques idées musicales qui sont associées à des idées extra-musicales qui sont présentées dès l'ouverture de l'opéra. La première mélodie qu'on entend, elle va s'associer au fur et à mesure de l'opéra à l'idée de désir. Ce désir qui va perdre finalement les deux protagonistes, Tristan et Isolde, qui n'étaient pas faits pour vivre une histoire d'amour et qui vont fatalement, évidemment, la vivre. Bien sûr, pour commencer une histoire d'amour, il faut se regarder, ça commence souvent comme ça. Le motif du regard est celui-ci. Dans Tristan, il y a une histoire un peu de magie aussi, puisqu'il y aura des filtres d'amour qui seront utilisés. On va les entendre juste après, d'ailleurs, le motif du filtre d'amour. Mais déjà, le motif de la magie est celui-ci. Je vous le disais, il y a une histoire de filtre d'amour. Alors, filtre que vous écrivez ici, pH, hein, c'est une sorte de potion d'amour qui est bu finalement par erreur. Voici ce motif du filtre d'amour. Et puis, Freud nous a bien montré que l'amour et la mort n'étaient jamais très loin de l'autre et que Eros et Thanatos se baladaient souvent main dans la main. La mort, évidemment, elle est extrêmement présente. Voici le motif de l'attente de la mort. Alors, je vous le disais, ces motifs, la première fois qu'on les entend, bien évidemment, on ne sait pas à quoi ils sont associés. Et la première fois qu'on les entend, c'est dans l'ouverture de l'opéra, où il n'y a pas encore de paroles. C'est une page purement orchestrale. Donc là, il n'y a pas d'interprétation encore à avoir, ou en tout cas, l'interprétation, elle sera a posteriori, une fois que les personnages auront commencé à s'exprimer et que ces motifs prendront tout leur sens. On écoute donc cette page superbe de musique, le prélude de Tristan et Isolde de Wagner. J'ai choisi la version que dirige Sergiu Celibidache à la tête de l'orchestre de Munich. Alors, autant quand on entend les leitmotifs de Wagner dans le prélude, mais on a encore une oreille innocente et on ne comprend pas forcément le sens de ces mélodies, autant à la fin de l'opéra, normalement, si on a bien suivi, bah, les choses fonctionnent et donc cette musique devient beaucoup plus signifiante. On va donc écouter bah, la fin de l'opéra, la mort d'Isolde, puisque je vous le disais, c'est un opéra qui, comme souvent les opéras, ne se termine pas très très bien. Alors la version que j'ai choisie est une petite curiosité, c'est une version qui est chantée par Felicity Lott et qui est accompagnée ici par un tout petit effectif d'ensemble de musique de chambre. C'est juste pour essayer de montrer que Wagner, ce n'est pas seulement ce compositeur qui fait beaucoup de bruit, ce compositeur qui, comme disait Woody Allen, donne envie d'envahir la Pologne. Non, c'est aussi un compositeur de l'intimité, de la tendresse. Voici donc cette mort d'Isolde chantée par Felicity Lott.
Thank you.
Alors encore une fois, on dit que c'est Wagner qui a mis au point ce système du leitmotiv. Alors, probablement, c'est lui qui l'a le plus exploité et qui l'a vraiment théorisé. Wagner a publié énormément d'écrits théoriques sur la musique et sur la philosophie, et donc il en parle beaucoup. En réalité, c'est un procédé qui est utilisé par la plupart des compositeurs, et en particulier au XIXe siècle. On va le retrouver, par exemple, en Italie, avec un compositeur qui ne passe pas forcément pour un intellectuel de la musique, Leo Cavallo, dans un opéra qui s'appelle Payas. On va écouter le prologue de Payas, où vous allez entendre juste suggérer un petit motif qui va revenir régulièrement dans l'opéra, celui de l'air le plus connu, Ridi Pagliaccio, voilà, qui est évoqué et qui va revenir plusieurs fois dans l'opéra. Donc on écoute ce prélude de Pagliaccio. C'est la version qui est dirigée par Ferenc Frickschey à la tête de l'orchestre symphonique de la radio de Berlin. Le chanteur est Dietrich Fischer-Dieskau.
Ma non per dirvi come pria. Le lacrime che noi versiamo sono false, degli spasimi e dei nostri martir. Non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato invece pingervi uno sguardo di vita. Egli è per massima sol che l'artista è un uomo e che per gli uomini scrive. Deve, ed al vero ispirassi. Un nido di memorie in fondo alla cantava un giorno ed ei con vere lacrime scrisse e il signorzi il tempo li batte. Vedrete dell'olio i tristi frutti, del dolor gli spasimi, ogni di rabbia udrete e risacchi.
Prologue de Payas, et puis donc dans ce prologue on entend un motif qui va revenir régulièrement plusieurs fois dans l'opéra, qui à chaque fois évoque le drame de Payas lui-même, et ce drame il est particulièrement explicite dans le grand air de Payas, Vesti la Giubba. On écoute ce grand air dans la version de Placido Domingo, qui est accompagné par l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, que dirige le grand chef français Georges Prêtre.
Le chitar mentre presa dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio e pur e dopo forzati va sei tu forse un uomo. Ooh.
Vous savez peut-être que Nietzsche, le philosophe Nietzsche, après avoir été très ami de Wagner, s'était brouillé avec lui et disait que finalement le modèle à suivre pour la musique, c'était pas la complexité des brumes wagnériennes, mais le soleil de Bizet et en particulier de Carmen. Carmen aussi est un opéra qui utilise des leitmotifs, en particulier et encore une fois le motif du drame, le thème du destin qu'on entend pour la première fois par exemple dans le prélude. Écoutons juste ce thème du destin. Thème, on entend bien hein, qu'il annonce des choses plutôt funestes, même s'il n'est pas encore associé à des paroles ou à un contexte particulier. Alors, dans le prélude, qui reprend les différentes atmosphères, quelque part, de la pièce, les airs principaux, bien évidemment, on sent qu'il va y avoir du drame. On écoute donc le prélude de Carmen, dans la version que dirige Claudio Abbado, à la tête du London Symphony Orchestra. Thank you. Ce thème du destin, il va revenir régulièrement dans l'opéra, à chaque fois où la situation se tend, où l'amour entre Don José et Carmen est de plus en plus compromis. Voilà, on sent qu'on va vers un drame, et à chaque fois qu'on veut nous faire sentir ce drame, Bizet évoque ce thème du destin. Bien évidemment, c'est à l'extrême fin de l'opéra que ce thème sera le plus utilisé. On va donc écouter le final de l'acte 4. Don José, il met tout un opéra pour s'en rendre compte, mais ça y est, il s'en est rendu compte. Il lui dit « Carmen, tu ne m'aimes plus ». Et puis à partir de là, ça se passe pas bien.
Tiens!
Eh bien, t'as dit!
c'était le final de l'acte 4 de Carmen. On a commencé cette émission avec un leitmotiv que vous connaissiez, celui de Dark Vador, celui des forces du mal dans Star Wars. On va essayer de vous remettre cette fois-ci dans le droit chemin. Et je vous propose d'écouter le thème de la force, toujours dans Star Wars bien sûr. C'est un thème bien sûr de John Williams. Il est interprété et dirigé par John Williams lui-même. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et donc, voilà, que la force soit avec vous. C'est avec John Williams et Star Wars que se termine ce Tutti Quanti. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner.